qui sait que grâce à lui, la yeshiva existe, ce Amaretz-là, il est lié au monde de la vérité. Hein? Alors, de lui, on ne dit pas, tu es une BMA, pas du tout. Hein? Donc, vous comprenez le problème. C'est, donc, c'est une question de style dans la question. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber dans la grossièreté, se prendre pour un Talmid Chacham, et dire d'un juif qui est comptable ou autre chose, je dis comptable parce que ça doit être le métier le plus difficile. Enfin, gagner sa vie en faisant des additions, des soustractions. Imaginez quelle vie c'est ça. Eh bien, de lui dire, oh, ben, pas du tout, il ne s'agit pas de ça. Hein? Vous ne savez pas quel honneur rend le Talmid Chacham à son beau-père. Parce que c'est grâce au beau-père qui peut être inséré sur terre. Vous comprenez le problème. Celui qui a préparé une femme pour un Talmid Chacham, celui-là est Motamashiach. Celui qui s'occupe des affaires du Talmid Chacham, celui-là est Motamashiach. Regardez comment ça se passe dans la société. Parce que un Talmid Chacham ne se marie pas avec n'importe qui, ne mange pas n'importe comment, ne vit pas n'importe comment. Et puis s'il est Talmid Chacham, il doit s'occuper que de sa Torah. C'est ce que je veux dire. Un vrai Talmid Chacham n'a pas le temps de penser au Maaseh Behemoth. Et pour devenir Talmid Chacham, il faut faire que ça 24 heures sur 24. Dans la société contemporaine, je pense que c'est clair. Talmid Chacham, c'est pas quelqu'un qui a... Ça me rappelle une histoire du Maharal. Un jour, un Talmid voulait passer une smicha. Smicha, vous savez ce que c'est? C'est le Maharal. Alors, le Maharal lui a demandé, qu'est-ce que tu sais? Je sais le Talmud. Quoi dans le Talmud? La moitié. Il dit, je ne peux pas t'interroger. Parce que chaque fois que tu me diras, c'est dans l'autre moitié. Et alors, après, il lui pose la question, il lui dit, mais qu'est-ce que tu sais vraiment? Il dit, ah, je sais Chumash Rashi. Alors, le Maharal lui dit, tu sais Chumash Rashi, alors tu peux me remplacer. C'est exactement ça. Il faut bien comprendre à quel niveau ça se passe. Que vraiment, lorsqu'on parle de Talmid Chacham, c'est sérieux. Alors, il ne peut pas du tout être inséré dans la vie économique, d'aucune manière. La tribu de Lévi, le Cohen, il est à part. Sinon, il ne peut pas être Lévi, il ne peut pas être Cohen. Dans la société contemporaine, il y a quelque chose qui ressemble. C'est ce qu'on appelle la recherche scientifique. La société donne des bourses à quelqu'un pour qu'il se voue à son travail pour la société. C'est ça. Mirané min chassav le Talmid Chacham. Vous comprenez le problème. C'est-à-dire que vous n'avez aucune idée le mérite qu'a un homme quand il donne le maaser à une yeshiva, à condition que ce soit le maaser et que ce soit une yeshiva. Mais c'est exactement cette gemara.
Est-ce qu'on ne peut pas confondre la pensée à propos de l'Amratzim et de Amir Haroman avec celle de magistrat qui devait diriger la République de la
France? Très exactement. D'ailleurs, je me proposais de parler de ça, c'est très bien ça. C'est très exactement ce plan-là, vous allez le retrouver dans la République de Platon. Les trois classes, tout à fait ça.
La bourrière,
très très bien.
Le guerrier.
Oui. Ici, l'analogie qu'il faudrait faire, ce serait avec le philosophe. Le Talmid Chacham, pour la. C'est très très bien, exactement. Bien. Comme on est arrivé presque à l'heure, si vous voulez prendre encore 5 minutes, il y a une question, mais on rembrera là-dessus. Alors, vous comprenez un peu pourquoi il y a cela. Et le Talmid Chacham lui-même, à ce qu'il attend, c'est Olam Haba, qu'aucun prophète n'a vu. Ce que les prophètes ont vu, c'est Yemot HaMashiach. Et qu'est-ce que c'est que l'objet de ces prophéties pour Yemot HaMashiach? Dafka, ce que nous demandons dans la Tfila. C'est ça le lien avec le... Vous comprenez? Au fond, qu'est-ce que nous demandons dans la Tfila? Hayeshara. C'est-à-dire qu'un peu de cette bracha de Yemot HaMashiach nous soit donné maintenant. Il m'arrive de dire de Olam Haba nous soit donné maintenant, mais il s'agit vraiment de Yemot HaMashiach. En particulier, Darat. Et vous voyez que la distinction, qu'est-ce qu'on demande Darat? On demande d'être un Itracham, sauf. Hein? La distinction est sur Darat. J'ai besoin de Darat. Et parce que j'ai besoin de Darat, j'ai besoin de toutes les autres brachot. Vous verrez, si vous étudiez en détail, étudiez-les avec le livre du Rav Mouk, les autres brachot que je demande après Darat, c'est parce que Darat. Mais l'essentiel de la demande, c'est Darat. Un homme qui n'a pas Darat, c'est pas un homme. Hein? Je ne sais pas si d'entre vous connaissent le judo arabe. Quand on avait affaire à un amaret, alors on disait, c'est une blague du Talmud Torah, Ahonin la adam de l'art.
C'est-à-dire
il a. De l'art, ça ressemble un peu à da'at, mais de l'art, c'est une pastèque. Ça veut dire qu'il n'a pas une tête, il a une pastèque. Ahonin la adam de l'art. Que Dieu a gratifié cet homme d'une pastèque.
Une pastèque.
En réalité, on peut dire que c'est un melon. Vous voyez, c'est la bain avec des chapeaux melons.
Melon coloré de vos dos.
Mais,
et ça t'arrête
d'autre pas.
Et
ta da da'at tovara. Da'at tovara lo Et etz da'at tovara lo tochal.
Ah oui.
C'est-à-dire l'art de la connaissance où le bien et le mal sont mélangés, l'ambiguïté, ça lo tochal. Mais da'at, parce que ça c'est un poison. Le jour où tu en manges, tu meurs. Il y a avec la mort qui guérit ce poison, le tovara mélange. Qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, ça c'est le principe. Que l'objet de la tfila, c'est d'afka ce qui nous sera donné à Yemot HaMashiach. Écoutez, si vous voulez, je ne sais pas si j'ai parlé de ça ici une fois. Je commencerai demain par une référence que je vais vous demander de préparer. Ceux qui ont le Midrash, vous pouvez le préparer dans le Midrash, ceux qui ont Torah Tumima, vous pouvez le voir dans Torah Tumima. Vous allez chercher le verset à propos de la mort de Metushelach. Vayhi leshivat hayamim, d'Omreshit. Vayhi leshivat hayamim. À la fin du déluge, à la fin du sursis qu'il y a eu avant le déluge, Dieu a donné encore 7 jours de sursis, les 7 jours du deuil de Metushelach. Vayhi leshivat hayamim. Et nous allons étudier cela. Demain pour commencer. Étudiez-le dans les références du Torah Tumima. Et le problème. Nous verrons ça. Rappelez-moi que c'est le lien avec ce qui se passe dans Yemot HaMashiach. Ce qui nous renvoie d'ailleurs au premier verset de notre livre de Adonai, Spatai Tifsa, Fuyami Teilatecha. Si c'est Dieu lui-même qui m'aide à prononcer le mot de la prière, comprenez bien la kavana qu'il y a dans le verset introductif du Bishmoneh. Adonai Yisratel Kiftach, ou Fi Yamit Teilatecha. Alors la relation est ainsi, Boreni Yisratayim, Shalom Shalom, la paix sera donnée, la rachok vers la karot, à celui qui est loin et à celui qui est proche, Amar Hashem, Urpati, et je le guérirai. Ça veut dire dans la mesure où l'expression même de la tfila est inspiré à la manière de la Nevoa, et donc il n'y a pas le risque de Amit Palel Betara, celui qui prie et se trompe, alors il y a possibilité pour celui qui prie de savoir si la promesse qui est dans le verset s'accomplit, ce qui est indiqué par Urfati et je le guéris. Si vous voulez, dans le premier enseignement, la raison pour laquelle ce verset est cité par rapport à notre Mishnah doit être défini sur le dernier mot du verset, Urfati. Et je le guérirai. C'est-à-dire, vous reliez la première expression du début du verset, l'Orenu Sataï, à la dernière, pour Fatima. Alors, ceci dit, dans le contenu même du verset, il y a une indication que cette promesse du shalom et de la refoua, elle est donnée dans deux cas. Un cas qui est appelé la rachok et un cas qui est appelé la karov. Que l'homme soit rachok ou qu'il soit karov, dans les deux cas, le shalom est donné et la refoua. D'où d'ailleurs la répétition de shalom, shalom. Hein? Premier mot shalom, la rachok. Deuxième mot shalom, la karov. Et donc, maintenant la Gemara, c'est là que nous allons commencer à étudier, va nous donner une série d'enseignements, en commençant par le premier enseignement de Rabbi Yochanan, c'est que ce que Dieu promet est promis et donc est à être donné à deux situations de l'homme, et quand l'homme est rachok et quand l'homme est karov. Nous allons donc avoir un certain nombre de numéros, rachok en quoi, karov en quoi, loin en quoi, proche en quoi. Premier enseignement, alors c'est là qu'on comprend. On est suffisamment situé maintenant dans le sujet. Okay?
Bon. Alors, Amar Rabbi Yochanan. Vous voyez, la ligne commence comme ça. Amar Rabbi Chiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Messieurs les sur terre, sur la Nevim, Kulam, non Itnaveu, tous les prophètes non prophétisés, et là, les Massi, Bito, les Amik Racham, que pour celui qui marie sa fille à un Tamik Racham, pour rosser pragmatia les Tamik Racham, celui qui s'occupe des affaires du Tamik Racham, celui qui subvient aux besoins du Tamik Racham par ses propres possessions. Abal Tamide Chachamim Atman, mais les Tamide Chachamim eux-mêmes, Aïn Noraata, c'est pour eux, c'est ce que dit le verset suivant, Aïn Noraata, aucun œil n'a vu ce qui attend les Tamide Chachamim, et le Kim Zulakra, Dieu seul, sous-entendu le sait, y a rassé leur raquelo, et il l'accomplira pour celui qui espère en lui. Je ne dirai pas aujourd'hui la fin du verset, mais c'est surtout la référence elle-même qui est importante. Donc nous avons deux catégories d'hommes. L'une qui est définie très clairement, le Tamik Racham, par rapport au verset précédent de Yeshayahu, très facilement, nous voyons qu'il s'agit du Karov. Le Tamik Racham est Karov. Et donc, l'autre catégorie, c'est celui qui n'est pas le Tamik Racham, et donc qui est Karov. C'est Rahok. La définition simple, c'est Karov, Rahok, de quoi ? Disons de la Torah. Mais que, d'après le verset d'Isaïe, Boréni, Sataïm, Shalom, Shalom, la promesse, véhiculée, impliquée par la prophétie, est donnée aux deux catégories. Le monde a été créé, à travers l'histoire du monde, Dieu a révélé la Torah, et puis voilà que parmi les hommes, il y a ceux qui sont proches de la Torah, le Tamik Racham, et ceux qui sont loin de la Torah. Nous allons dire l'expression qu'on connaît habituellement, le Ramah. Okay? Mais voilà que nous avons un verset qui nous indique très clairement que les promesses de la prophétie sont données pour les deux catégories, mais à deux niveaux différents. Premier enseignement de Rabbi Yochanan, tous les prophètes n'ont prophétisé que pour celui qui est Rahok, que pour celui qui est loin. Loin de quoi ? De la Torah. C'est-à-dire le Ramah. Mais pas n'importe quel Ramah. On va l'appeler le Baal Abayit. Vous entendez les mots en hébreu? Si c'est nécessaire que je traduis, dites-moi. Si un mot hébreu que vous ne comprenez pas, arrêtez-moi, je ne peux pas deviner ce que vous savez. C'est-à-dire qu'il y a donc dans la société humaine, le tamik, dans la société juive, disons, le tamik racham, qui est donc défini dans les catégories du texte comme étant le karov, et puis il y a celui qui, pour X raison que ce soit, ne peut pas être tamik racham. Alors il est le Baralabaï. Est-ce qu'il n'aura, disons la Hamaré, est-ce qu'il n'aura pas participation à ce que la prophétie a promis à l'homme, qui est en accord avec la volonté du Créateur? Oui, il a aussi participation. Mais à trois conditions, c'est pas forcé que ce soit simultané, les trois à la fois, mais disons à une condition, qu'il y ait solidarité entre lui et le Tamik Racham. Et je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui de comprendre pourquoi la Gemara a choisi, frère Rabbi Yochanan, a choisi précisément cette structure-là, ces trois dimensions. Celui qui est Massi Bito le Tamik Racham, qui marie sa fille au Tamik Racham, ou celui qui est Osef Pragmatia le Tamik Racham, celui qui se préoccupe des besoins matériels du Tamik Racham, ou celui qui est Mehane Tamik Racham in Chassav, celui qui directement subventionne, d'ailleurs c'est subvention, c'est subvient aux besoins du Tamik Racham. C'est un point important auquel on a fait d'ailleurs allusion hier par une de vos questions. Non, c'était pas vous. C'est pas là. La République de Platon.
Oui.
Donc, voilà la première catégorie qu'il faut établir. Et alors, donc, apparaît ici un enseignement important qui s'éclairera par la définition qu'il en est dans la même race suivante. Tout ce qui a été prophétisé par les prophètes, c'est Yemot HaMashiach. Un temps où le monde achève son histoire dans la perfection de Olam Hazeh. Yemot HaMashiach, c'est l'achèvement de l'histoire de Olam Hazeh. Et donc, tous les prophètes nous ont prophétisé un monde où enfin le Tikkun HaOlam, l'histoire réussira, et le monde sera dans une dignité de monde. Ce qui n'est pas pendant tout le temps de Olam Hazeh. pendant tout le temps de Ramazé, c'est le temps où d'abord le bien et le mal sont mélangés, c'est Tovara à la fois mélangé, et puis c'est le temps où le rare est plus fort que le taux. Mais voilà que les prophètes ont prophétisé un temps du monde où le taux triomphera du rare. Olam Ketikuno, Olam Betikuno, un monde mis au point, un monde duquel on pourrait dire vraiment que c'est un monde vivable, ce qui n'est pas le cas du monde à travers tout le temps de Ramazé. Et bien jusque-là. Et la ligne principale du récit de la Torah nous est indiquée précisément par ce mot de Shalom. C'est-à-dire l'essentiel de la prophétie des prophètes pour le temps d'un Olam Hazé et Kikino, le temps de Yemot HaMashiach, c'est le mot de Shalom. Un monde, un temps d'un Olam Hazé où il y aura la paix. Et nous savons très bien que depuis le commencement de l'histoire humaine, Caïn et Abel, et je reviendrai là-dessus parce que la ligne directrice du récit, le monde est dans l'état de guerre. Ça n'a jamais cessé. Et l'essentiel de la prophétie des prophètes, c'est le temps de Shalom. Une petite parenthèse, vous savez que nous attendons le Mashiach Ben David, et le premier nom du premier Ben David, c'est Shlomo. C'est-à-dire la perspective essentielle de qu'est-ce que c'est que le monde qu'ont vu, qu'ont prophétisé les prophètes, un monde où il y a la paix. Et s'il y a la paix, toutes les brachot sont possibles. C'est la clé de toutes les brachot dont on prophétisait les prophètes. Pourquoi ? Donnez un petit exemple que je cite souvent, parce que c'est un problème contemporain. Et vous savez que le principal foyer des risques de guerre dans le monde, c'est le fait qu'il y a inégalité de répartition des moyens de vie. Et en particulier, le fameux problème de la faim dans le monde. Or, vous suivez, c'est-à-dire si on cherche les causes profondes de tous les conflits, indépendamment des causes indéniables au niveau idéologique, au niveau religieux, au niveau de tous les conflits d'idées, de tous les conflits d'intérêts spirituels, en fin de compte, la cause la plus fondamentale, c'est une rivalité au niveau économique. Est-ce que c'est bien clair ? Vous connaissez l'analogie qui est entre Milchama et Lechem. Pourquoi il y a la Milchama ? À cause du Lechem. Mais, et donc, par exemple, dans le temps contemporain, il est bien évident, je me réfère pour ceux qui ont assisté au séminaire du soir à une question de l'interpellateur qui était là, Shlomo, hein ? Il est bien évident que nous vivons dans un temps où la science et la technique humaine est arrivée à un niveau de capacité tel qu'il pourrait y avoir à manger pour toute la Terre et dans l'abondance. Et quand je dis à manger, ça veut dire au niveau de toutes les jouissances économiques qu'elles soient. Qu'est-ce qui empêche ? Et un des plus grands risques des conflits futurs, Hazé Shalom, mais si jamais ça éclate, ça sera une guerre terrible, ça sera la guerre du tiers et du quatrième monde contre le premier et le deuxième, c'est-à-dire des nantis contre les non-nantis. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et il y a une inégalité, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, au niveau de la faim, purement et simplement, telle qu'elle est grosse de conflits éventuels lorsqu'on lit dans les journaux les explications des journalistes ou des hommes politiques de la raison des conflits, on nie que les apparences. Dans le fond des choses, le véritable risque du conflit, c'est la dispute entre Caïn et Abel, celui qui a et celui qui n'a pas. Et bien que je vous l'ai un problème assez large, je le refaire tout de suite. Or, il y a une capacité de science et de technique suffisante pour que les répartitions des biens de consommation, comme on dit, et dans l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas la paix des personnes entre elles. Vous voyez ce que je veux dire ? Si le monde était dans l'état de Shalom, tous les problèmes de la société humaine peuvent être résolus. Et imaginez, je vais très vite dans l'analyse, mais je pense que vous comprenez. Imaginez effectivement qu'un pays comme la France, où vous vivez, j'espère pas trop mal, soit vraiment préoccupé des problèmes de la paix et pas des problèmes de la guerre, et qu'elle puisse disposer de tout son budget militaire, finalement vous auriez le chauffage central dans les rues. Mais non seulement ça, il y aurait une possibilité pour la recherche médicale qui ferait accélérer la recherche sur le cancer. Et en fin de compte, tout ce dont ont prophétisé les prophètes, qu'il n'y aura plus de malades, qu'il n'y aura plus de... Et sauf, Billa Amavet Ranetzach, tout ça c'est possible, c'est à portée de main, à une condition, qui est la paix, qui est Shalom. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc on comprend pourquoi l'obsession fondamentale de la prophétie des prophètes, c'est Shalom. Shalom, Shalom, Rachou Berakou. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire que c'est le slogan messianique par excellence. Un Olam Hazeh où il y aurait le Shalom. Et s'il y a le Shalom, toutes les brachot sont possibles. Et on arrive au Gan Eden sur Terre, exactement comme de façon systématique, ce qui est l'optimisme hébreu, les prophètes hébraïques ont vu le monde tel qu'il devrait être. Et de notre temps, il n'y a que les enfants qui savent comprendre cette vision des prophètes. Et dès qu'ils commencent à devenir adultes, on appelle ça, je crois, faire la bar mitzvah, la chez Oukazé. Et à ce moment-là, ils ne sont plus enfants les pauvres, et ils comprennent plus les prophètes. Mais nous avons beaucoup de textes dans les prophètes, mais surtout dans la Gemara qui dit qu'il arrivera un temps où les prophètes ne seront plus compris que par les enfants. Parce que les prophètes n'ont jamais parlé d'autre chose que du rêve d'un monde comme le rêve des enfants. Mais c'est les enfants qui ont raison. C'est pourquoi la Torah dit « Taver et Bene Israël ». Parle aux enfants d'Israël. Parce que les grands ne peuvent pas dire pas. Et c'est pas un conte de fées, c'est la prophétie de Dieu. Mais la clé, c'est évidemment le chalet. Alors voilà ce que nous dit ici la Mimra de Rabbi Yochanan. Il y a deux catégories. Il y a la catégorie de l'homme qui vit dans Olam Hazeh comme il est. Hein, et il est rachot de la Torah. Pour lui, les prophètes ont prophétisé le temps de l'Omot Amashia. Mais le Tamil Chacham, lui, qui est le Kaor, le Tamil Chacham, lui, même les prophètes n'ont pas pu voir ce qui l'attend dans leur Olam Haba. Hein? Alors était apparu là un paradoxe que nous avons commencé à étudier hier. Ça veut dire qu'au fond, l'Omot Amashia, c'est pas pour le Tamil Chacham. Et avant d'arriver là, à ce point, le point préalable, c'est que les Yamot HaMashiach sont promis à l'homme qui, bien que n'étant pas capable d'être un Chacham, a un mérite suffisant et lequel, celui d'avoir permis au Tamil Chacham d'exister. Parce que le Tamil Chacham, pour être un Chacham, ne peut pas s'occuper de Olam HaZeh, ne peut pas s'occuper de la vie terrestre. Il est tout entier dans un petit Olam Haba portatif, mais un Olam Haba, dans lequel il traverse la vie de Olam Hazeh. Et alors, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'aide à exister dans Olam Hazeh, il ne peut pas exister tout court. C'était le fameux grand problème qu'il y avait entre Ésaü et Jacob. Très rapidement, dans le rêve d'Isaac pour ses deux enfants, Ésaü et Jacob, en fin de compte, Ésaü a choisi Olam Hazeh, alors il veut lui donner la bénédiction d'Olam Hazeh. Jacob s'est voué à Olam Haba, il lui donne la bénédiction d'Olam Haba. Mais ça ne peut marcher que s'il y a alliance entre les deux. Et c'est ce que Rebecca a vu. Il n'y a pas alliance entre les deux. Alors elle dit, je vais les perdre tous les deux à la fois. Pourquoi? Parce que Ésaü n'aime pas Jacob, il ne laissera pas vivre dans Olam Hazeh. Jacob va à Olam Haba. Mais pour pouvoir arriver à Olam Haba, il faut passer par Olam Hazeh. Ça dépend d'Ésaü. Okay? Et puis, si Jacob est dans Olam Haba, alors il partage avec Ésaü, à condition qu'Ésaü partage avec lui. Ça a été clair? Ésaü lui partage Olam Hazeh, Jacob lui donne Olam Haba. Mais si c'est Ésaü qui a la bracha de Olam Hazeh et partage pas avec Jacob, les deux sont perdus. C'est ce que Rebecca dit. Lama eshkar gam shneem beyom echad. Pourquoi je serai veuve des deux à la fois? Alors elle dit, c'est dangereux, parce qu'elle sait que Ésaü ne partagera pas avec Jacob, okay, et il ne lui donnera pas le droit de vivre, comme dit Alika. Et alors donc, elle dit, c'est dangereux, il faut aussi que la bracha matérielle elle soit donnée à Jacob. Bon, et là commence une paracha énorme, mais je referme la parenthèse. Donc, nous avons dans la suite de l'histoire d'Israël cette alliance entre celui qui s'occupe de Olam Hazeh et celui qui s'occupe de Olam Haba, c'est réalisé entre deux tribus. Vous vous rappelez lesquelles? Zéroun et Issa. En général, on dit Issa ou Zéroun. Vahamer, le nôtre, mais Issa ou Zéroun. Et c'est-à-dire l'un travaille et l'autre étudie. Vous voyez ce qui se passe ici? Alors c'est là que la Gemara de Rabbi Yochanan élargit le problème. C'est-à-dire, quand la Nevi'im Kulam, Monit Naveu, est là où les prophètes, tous ces hommes prophétisés, n'ont jamais prophétisé que pour les hommes de Olam Hazeh qui permettent au Tamil Chacham d'exister. C'est clair? Eux ont le droit de Olam Hazeh Betikuno. Eux ont le droit d'un Olam Hazeh heureux, d'un monde qui soit vraiment un monde. Ce que les prophètes ont vu en voyant le monde dans l'état de Yemot HaMashiach. C'est clair? Et les Talmid Chachamim, ne demandaient pas postulat, ils l'ont déjà eu dans leur vie, les Yamot HaMashiach. Donc pour eux, ils sont déjà voués à un degré supérieur. Et pour eux, à la limite, ce n'était pas tellement nécessaire. Est-ce que c'est clair? Bon, et donc le Rabbi Hanan dit, et les Talmid Chachamim, eh bien c'est à ça qu'il fait allusion de verset, « Alim Rata », ça, au fait, l'humain a encore eu. Et le Kim Zumakra, il a rassé l'enfraqué. Mais c'est clair, je sais. Et alors, nous allons aborder une étude de Parshanus dans le Chumash pour éclairer un peu cela. Je vais d'abord vérifier si l'analyse vous est suffisamment claire. Vous comprenez quel est le problème.
Même le
Kraham,
dans ce monde, il essaie de gagner l'Olamaté.
L'Olamaté, tout doit être. D'ailleurs, je dirais plus. Le Tamir Kraham, bon, alors ça, j'ai oublié de faire une précision. Attendez, comprenez bien. Qu'est-ce qu'un Tamir Kraham? C'est pas quelqu'un qui, une demi-heure par jour, fait semblant d'étudier. Hein? Donc, ça se passe à un niveau. Vous comprenez que Tamir Kraham, vraiment. Hein? Et quand je me rappelle quand j'étais enfant, c'était un temps d'assimilation épouvantable. Et très jeune, je savais lire Elohim Neshama. Alors mes amis me disaient, ah, toi qui es arabe, je sais lire Elohim Neshama. Tamir Kraham. Oui, c'est pas là que ça se passe. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire. Et je pense que vous avez compris, c'est clair. Alors, un Tamir Kraham, mamash, un Tamir Kraham vadaï, comme disent les vadaï c'est la Kabbalah, mais mamash, comme disent les chassidim. Eh bien, un vrai Tamir Kraham, il vit dans Olam Haba, déjà dans Olam Hazé. Il est me'en Olam Haba. Vous comprenez? Par conséquent, plus que ça, le Tamir Kraham voit le monde dans l'état de Yemot HaMashiach. C'est le Amaret, c'est le Balabaï qui vit dans Olam Hazé que c'est Gurinam. Vous comprenez, je vais vous donner un petit exemple que vous savez déjà. Et d'une certaine manière, c'est pas nécessaire. On ne doit pas, le Créateur n'a aucune dette vis-à-vis du Tamir Kraham de lui donner un Olam Hazé de Tikkuno, c'est-à-dire Yemot HaMashiach. Toute sa vie, il l'a eu. Alors ce qu'il attend, c'est beaucoup plus haut. C'est meilleur Olam Hazé. C'est clair? Un petit exemple, vous savez que tous les juifs, le Shabbat, ont une Neshama Yetera, okay? Une âme supplémentaire, un supplément d'âme. Hein? Mais le Tamir Kraham a cette Neshama Yetera toute la semaine. C'est la différence. Et le Shabbat, il en a une troisième. Ça veut dire que le Tamir Kraham, dans lui, n'est pas dans le même monde que le Amaret. Le Amaret vit dans un monde que ce n'est pas un monde. Tandis que le Tamir Kraham, lui, vit, par le fait qu'il est dans le monde de la Torah, il vit déjà de l'ordre de Yemot HaMashiach. Il a déjà cela. Vous savez, c'est clair? Il y a une différence de niveau de nature. Alors, par conséquent, premier enseignement, pour qui ont prophétisé les prophètes toutes ces brachot de Olam Hazé de Tikkuno? Eh bien, c'est pour le Baal HaBayit, qui n'est pas capable de Tamir Kraham. Et ce Baal HaBayit-là, comme j'ai expliqué hier, c'est un homme très pieux, tout le chronologue est pratique. Verditabo Yom Avalaya, il étudie jour et nuit, mais il n'est pas Tamir Kraham. Ça y est, c'est clair? C'est un homme moral. Un Tamir Kraham ne va pas prendre la fille de n'importe qui. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Et il ne s'agit pas d'une brute, ce Amaret, ça. C'est un bon juif, comme on dit. C'est-à-dire, il fait toutes les mitzvot. Et il étudie tout ce qu'il peut. Des fois, il connaît le chasse par cœur. Mais il n'est pas Tamir Kraham. J'essaie de vous faire comprendre. Ici, dans cette Gemara, qu'est-ce que ça veut dire, Tamir Kraham? Ça y est, c'est clair? Et alors, pour lui, alors il a droit quand même à ce Yemot HaMashiach. Hein? C'est une sorte de compensation du fait que toute sa vie, il a vécu dans un enfer, Olam Hazé, le Olam de Esav, le Olam de Moïse, c'est l'enfer. Hein? Et alors, il a droit à ce Olam des bras. Ça y est, c'est clair, jusqu'à là? Bon. Alors, je vais un peu élargir le sujet. Et Ken?
Pourquoi
est-ce que
Tamir Kraham
est un sadique? Non, le Amaret, celui-là, il est premièrement un sadique. Tamir Kraham, c'est au niveau de la connaissance. Okay? Tamir Kraham. Je veux dire, il y a une espèce de démonétisation, okay? Dévalorisation du langage. Enfin, au bout de 2000 ans de galou, la monnaie s'est dépréciée. Okay? Alors, quand on dit de quelqu'un qui est Tamir Kraham, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'il sait traduire un rachid, hein? secret, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ils connaissent le Ratachem. Qui c'est? Dans la même on discute, qui c'est un tel Ram? Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous comprenez? Par exemple, vous donnez une autre indication. Il vous arrive souvent de dire de quelqu'un, ah, celui-là, c'est un apicole. Il n'est pas assez grand pour être apicole. Et il faut savoir à quel niveau on définit les gens. Ah, celui-là, c'est un apicole. Qu'est-ce que c'est? Il est capable de passer le baccalauréat français avec les bruits comme un étranger. C'est un tel étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est clair. Il faut donner aux mots leur sens réel.
Il n'y a pas pour dire alors comment tu me marierais
pas.
Aujourd'hui, il n'existe pas alors comme les gens qui m'ont envie de me marierais pas.
Pourquoi tu calomnies ton peuple?
Ah non.
J'ai juste dit il y a un enseignement de la tradition qui dit que tous les grands d'Israël se trouvent à chaque génération, à la hauteur et au mérite de chaque génération. Bon, s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu à chaque génération, tu auras Moshe Rabbeinu. Donc, essayez de comprendre ce que je veux vous dire. Je vous cite des textes qui existent. C'est-à-dire Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont là. Et j'ai pas dit là, mais enfin, ils sont dans la génération. À la hauteur et au niveau de la génération. Et je vous souhaite d'arriver un jour à étudier suffisamment pour savoir de quoi il s'agit quand on parle de ce qu'un Talmid Chacham étudie. Vous connaissez le livre? Bon, mais partout, vous avez entendu. En fait, nous sommes un peu dans un siècle où les programmes scolaires sont des programmes d'un infantilisme absolu. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, même en culture générale. D'ailleurs, un enfant juif normal est capable de discuter avec Rabbi Shimon Bar Yochai à l'âge de 9 ans. De 9 ans et demi. Mais aujourd'hui, les enfants juifs, on leur fait faire des exercices de balbutiement jusqu'à l'âge de 35 ans. Vous comprenez un peu de quoi je parle? C'est-à-dire qu'il faut prendre les choses au sérieux. Lorsque la Gemara dit « Abal tamidei chachamim ayin ra'ata » de qui on a parlé? On a pas parlé du répétiteur des autres. Bon, je pense que c'est clair. Et de la même manière que lorsqu'on parle du Amaret, on parle pas. Aujourd'hui, le mot Amaret est devenu déprécié. Amaret, c'est une brute. Non, ça c'est bourre. Oh, il m'a fait voir ça. Amaret, ça veut dire il pratique tout ce qu'on a voulu. Il connaît la Gemara par cœur. C'est un sadique. C'est là donc que je réponds à ta question. Oui. Mais il n'est pas un mitracha. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. D'abord, pour être un chacham, il faut être le tamid d'un chacham. Un petit exemple. Dans la tefila, nous disons, trois fois par jour, Hashivenu le Torah Techa. Ramène-nous à ta Torah. Et alors, on n'a pas la Torah entre les mains. Oui, on a notre Torah, mais ta Torah, ça c'est un chacham. Hashivenu le Torah Techa. On a une Torah de Amaret. Allez, c'est clair, on a remis les mots à leur place. Ça va? Bon, je ne sais pas dans quel sens tu as employé le tzaddik dans ta question. Ne confondez pas. Tzaddik, c'est la vertu morale. Tamid Chacham, c'est au niveau de la connaissance. Je vais vous dire une chose un peu exagérée, mais essayez de la comprendre. Il peut arriver qu'un Tamid Chacham soit racha. Il peut arriver qu'un tzaddik soit amalé. C'est clair. Il peut arriver. Ça, c'est de l'optimisme. Ça, hein. Alors, voilà donc la catégorie que je voulais situer. Ici, dans ce premier enseignement de Rabbi Yochanan, qui est le karo, qui est le rachok? Le karo, c'est le Tamid Chacham. Le rachok, c'est le, disons, le Amaret, mais pourquoi il a l'accomplissement des mêmes promesses? Parce que, bien que n'étant pas Tamid Chacham, il a été en alliance avec le Tamid Chacham, il a permis, il a participé. Ça y est, c'est clair? Bon, je ferai peut-être cela par une des Mishnayot du Pirkei Avot, que vous connaissez certainement. Yehi betecha betvarad lachacham. Vous connaissez tous cette formule. Que ta maison, yehi betecha betvarad lachacham. Que ta maison soit une maison où les Hachamim puissent se rencontrer. À qui, pour qui est dit cet enseignement? À qui est dit cette Mishnah? Et si l'objectif de la Mishnah consiste à dire fais-toi le disciple des sages, bien, vous connaissez la Mishnah. Alors que la Mishnah dit deviens l'élève d'un maître. Non, il s'agit précisément de ceux qui ne sont pas dans la possibilité d'être un Midrash Chamim. Alors ils vont être coupés de la Torah? Non. Ils vont être jetés, perdus, disqualifiés. Alors la Mishnah donne une stratégie. Yehi betecha betva'a la Chamim. Fais de ta maison une maison telle que les Chachamim s'y donnent rendez-vous. Et vous voyez donc de quelle maison on parle. Un Baal Abayit chez qui les Chachamim vont. Et les Chachamim ne vont pas n'importe où. C'est-à-dire quand deux. Vous comprenez ce que je dis? Quand deux Talmidei Chachamim veulent se donner rendez-vous, ils pourront étudier ce Tosfot. Chez qui on va étudier ça? Oh, on est chez le président d'un tel. Mais pas n'importe quel Baït les Talmidei Chachamim vont. Vous voyez que l'objectif de la Mishnah, c'est de nous dire comment quelqu'un qui ne peut pas être un Chacham va être lié à la Chokma. S'il avait voulu dire apprends la Chokma, va chez un maître et apprends. Non, il s'agit de quelqu'un qui nous dit la veine que de la Gemara. On essaye 5 ans. Et si on n'a pas réussi, on essaye encore 5 ans avec quelqu'un d'autre. Et si on n'a pas encore réussi, on essaye encore 5 ans avec quelqu'un d'autre. Si on a réussi, c'est très bien, on rentre à la Yeshiva pour commencer à étudier. Sinon, on va faire du commerce, on gagne beaucoup d'argent parce qu'entre temps, on est devenu intelligent. Mais on donne de l'argent ici. Vous voyez à peu près comment c'est ça? Mais c'est ça. Ça veut dire qu'il s'agit donc d'un baï ou d'un bar à la baï qui est Hagoun. Alors les Hachamim se donnent rendez-vous. Il y a une jolie explication du Barthénora sur cette Mishnah qui se base sur un des Midrashim, j'ai renversé de Shirachirim et qui dit ceci. Simplement, je vous cite le Midrash pour imiter un peu cela. Et la Torah va être comparée dans ce verset de Shirachirim à une huile parfumée. Et alors, l'homme ne peut pas vivre sans cette huile parfumée. Seulement, vous connaissez le Midrash. Alors, il y a deux catégories d'hommes. Ceux qui peuvent aller chez le parfumeur acheter de l'huile parfumée et ceux qui ne peuvent pas aller chez le parfumeur acheter de l'huile parfumée. Ceux qui sont capables de tenir leur famille et ceux qui ne sont pas capables de tenir leur famille. Et si vous comprenez bien qu'est-ce que c'est que cette huile parfumée-là, un homme ne peut pas vivre sans. Bon. Et alors le Midrash écrit ceci, à propos du verset, le Réach Shemanecha Tovim, dit ceci, celui qui a de quoi acheter l'huile parfumée va chez le parfumeur et il lui demande, je veux tant de parfum. Bon. Et pendant ce temps, celui qui n'a pas de quoi acheter, il est dans la boutique et au moment où le parfumeur transvase d'un vase à l'autre, il en profite. Vous voyez, il est rachok. L'autre est rachok, bien sûr, de la même manière, lui ne peut pas être un chacham. Alors il va faire de sa maison une maison telle, il suffit d'ailleurs de mettre une mezouza cachée, avec tout ce que ça implique. On ne met pas une mezouza sur n'importe quelle maison. Il faut mettre une mezouza sur toutes les maisons. Hein. Et alors, il a une maison telle que les amis des chachamim se donnent rendez-vous chez lui. Et lorsque la chokhma se transvase d'un crâne à l'autre, alors il en profite. Il profite du parfum. Vous voyez à peu près le bruit. C'est de ça, qu'on parle. Je pense que c'est bien.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette histoire, justement, je demande.
Oui. Bon. Alors, nous sommes là sur une définition de Yémon Damashir. Et nous allons voir un texte qui nous indique que ce temps de Yémon Damashir, tel que j'essaie de le définir d'après notre livre, a déjà existé une fois dans l'histoire. Et je vous dirai où ça se trouve. C'est-à-dire, un Olam Hazeh qui est devenu à un certain moment Olam Ketikuno. C'est clair pour tout le monde cette expression. C'est-à-dire, un Olam digne du Créateur qui l'a créé. Ce qui n'est pas le cas du Olam dans toute l'histoire avant Biat HaMashiach. En particulier à propos du problème de Shalom, mais nous sommes dans le temps de Olam de Tov Varav. Hein? Or, le Maase Bereshit dit que Vayar Elohim, Kitov. Mais nous ne sommes pas dans l'Olam de Kitov. Nous sommes dans l'Olam de Tov Varav. Okay? C'est pour ça qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Rabbat. On a honte de dire Avor. Parce que c'est indigne du Créateur de lui dire une louange pareil à propos d'un monde tel qu'il est. Vous avez qu'à lire le monde, vous voyez comment est le monde. Vous voyez, okay, en tout cas, pour revenir à notre question, il s'est passé une fois que Dieu a décidé de donner ce temps de Yom HaMashiach au monde. C'est, et vous allez prendre tout de suite ceux qui ont les nuits, dans le récit du déluge, c'est dans le chapitre 7, verset 10 de Bereshit. Chapitre 7, verset 10 de Bereshit. Voilà, avant d'arriver directement au verset, je vous fais une petite introduction. Et quand vous suivrez tous ces sourires, tous ces récits de l'histoire humaine depuis l'origine, alors nous voyons que le problème fondamental de la société humaine commence avec Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel. Vous voyez, depuis ce moment-là, nous dit le Midrash, on attend le Mashiach. Parce qu'on attend le temps de Shalom. Si vous voulez, je peux vous donner la référence très exacte. C'est que la première fois qu'il y a l'espérance du Mashiach, c'est à la naissance de Shet. Je dirais que c'est la première fois que le mot de Zera, qui châtie le film Zera Racher, Tachak Hevet, qui Harado Kaï. Le Midrash dit dans deux endroits du Midrash, là, sur ce verset et dans le Midrash de Ruth, dit chaque fois que Zera apparaît, c'est Zaraosh Mashiach. Vous voyez, l'objectif, c'est de résoudre ce problème de Caïn et d'Abel. Et alors nous voyons, c'est cette ligne que nous avons suivie, nous voyons que Dieu donne, de façon systématique, ce que j'appellerais un sursis. Caïn a tué Abel. Cela disqualifie l'humanité. Normalement, le projet du Créateur a échoué. Caïn a tué Abel. Eh bien, on efface, on recommence, comme ça va se passer en fin de compte au déluge. Mais avant qu'on arrive à cet épisode du déluge, Vayimach et Koreyekum, que le monde a été effacé pour qu'on puisse recommencer, alors nous avons toute une série de sursis que je vais vous énumérer jusqu'à au point où nous allons arriver. Nous savons déjà, par le texte, que l'humanité a eu un premier sursis de 7 générations à partir de Caïn. Okay? Et lorsque ce sursis de 7 générations est achevé, a commencé un sursis de tout le temps de l'histoire de la lignée de Shet. Et ce n'est qu'en fin de compte, quand la lignée de Shet a échoué, que Dieu donne encore un sursis supplémentaire en donnant 120 ans à Noah pour construire l'arche. Ça fait donc combien de sursis jusque-là? Depuis Caïn, 7 générations, ensuite tout le temps de les 10 générations de la lignée de Shet, ensuite 120 ans de la construction de l'arche par Noah. Et après, on arrive à notre verset, et au bout de ces 120 ans, Dieu va donner encore une semaine de sursis. Alors c'est le temps du monde, l'état du monde dans cette semaine-là, que nous allons étudier maintenant en relation avec notre sujet. Alors vous prenez le verset 10 du chapitre 7, « Vayhi leshiva tayami » et il arrivera au bout de 7 jours. Quel 7 jours ?« Vayhi leshiva tayami » et il arrivera au bout de 7 jours, « Umeha maboul » et les eaux du déluge ont été sur la terre.
Attention, verset 4.
Il faut reprendre
verset 4.
Tiens, il a d'abord, oui, on va reprendre l'annonce que Dieu dit à Noir, au bout de 7 jours, j'enverrai le prendre verset 4. Il y a eu un autre qui va annoncer à la alors, en tout cas, sur notre verset 10, voilà ce que dit Noir. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier pendant ces 7 jours? Alors, je vais vous citer 3 midrashim parmi un ensemble de midrashim à ce sujet, et ça va nous faire comprendre précisément ce que j'essaie d'expliquer à propos de la Gemara, c'est ceci. C'est que le temps de Yemot HaMashiach est donné comme récompense à l'humanité qui a vécu dans le Olam Hazeh, et le Olam Hazeh va s'achever. Alors, ceux qui ont mérité les Yom HaMashiach, à la fin de Ramadan, les Yom HaMashiach leur sont donnés. De la 11e.